J'avais pas utilisé un appareil photo. Après, j'ai réussi.
Un paysage n'existe pas avant qu'un œil se porte sur le paysage.
Alors, ça m'a permis de me découvrir.
Et que la photographie soit créatrice à un moment d'un lien social, et que ce lien social qui soit créé, on le retrouve dans l'image, on le retrouve dans la création artistique.
Et si on regarde l'anagramme des images, c'est la magie. Donc c'est du jeu. Il faut que ça reste toujours du jeu.
Diagonale, une série de podcasts originaux réalisés par Écran Sonore, produite par le réseau Diagonale. 13e épisode aujourd'hui. Le programme Entre les images, un rapport au monde. Aujourd'hui, nous ne prendrons ni le train, ni le bus, ni l'automobile pour rejoindre une structure porteuse d'un projet du programme Entre les images. Nous vous proposons de prendre le temps de réfléchir et nous poser, se poser, pour une émission spéciale. Un podcast d'une forme inédite puisqu'il s'agit de revenir sur l'essence d'une initiative ambitieuse qui est bien plus qu'un simple programme d'éducation à l'image. Entre les images, qui fête ses 4 ans cette année, constitue le programme phare d'un réseau comprenant désormais 27 structures, centres d'art et de photographie contemporain. Quelques chiffres à faire résonner en ce début d'émission. Entre les images, c'est 126 projets à ce jour déployés sur le territoire métropolitain, mais aussi ultramarin, à destination de plus de 2900 bénéficiaires, grâce à l'intervention de 128 intervenants et intervenantes, dont 109 photographes. Avant que l'on entame notre conversation, je me suis souvenu qu'on avait commencé cette collection de podcasts originaux en produisant un manifeste revenant sur les valeurs fondamentales de ce qui constitue, on ne le dit pas assez souvent, le seul réseau de photographie en France qui fêtait alors ses 10 ans. Nous nous étions pris au jeu d'égrener les lettres du mot « diagonale » qui, on le rappelle, n'a pas de « e » et on terminait donc, bien sûr, notre petit abécédaire par le « l ». Elle que commentait ainsi Éric Gudimard, qui a été pendant 13 ans le président du réseau, qui a passé aujourd'hui la main, que dis-je, le flambeau à Éric Sinatora, le directeur du Graf, CMI à Carcassonne, et à Fred Boucher, directeur du centre Diaphane dans les Hauts-de-France, et qui est aujourd'hui à nos micros aux côtés de Raphaël Berthaud. Mais revenons sur ce « elle ». Comment le faisait-il résonner, Éric Gudimard ? « Elle » comme...
Alors évidemment, liberté, c'est un mot important, c'est-à-dire que même un centre d'art, ça doit être un espace de liberté, un outil d'appréhension de l'autre, hein, c'est-à-dire que ça doit être un espace de liberté pour tout le monde. Et c'est pas évident. La diagonale, c'est pas la diagonale du fou, c'est la diagonale de la liberté.
À propos de liberté, on a parcouru un sacré chemin au sein de ces 27 centres d'art et de photographie associés au réseau. Un chemin fou. Dans cet abécédaire, il y avait le G comme géographie, et on en a fait des kilomètres dans cette collection de 12 podcasts. Un G qui rime bien sûr aussi avec Jean. Alors je vous présente ceux qui sont à mes côtés aujourd'hui pour tenter cet exercice, non pas de bilan 4 ans après le lancement du programme Entre les images, mais plutôt une sorte de mise en perspective. On va parler de ce qui fait l'essence de cette folie, ce que sont les spécificités du programme évidemment, et ce que l'on peut en dire aujourd'hui. Et au-delà de projets de transmission et d'ateliers de pratiques photographiques, qu'est-ce qu'il se passe entre les images ? Raphaël Berthaud, bonjour.
Bonjour.
Le moins qu'on puisse dire, Raphaël, c'est qu'on puisse dire à la photographe, à l'historienne, la chercheuse que vous êtes, c'est que les enjeux qui ont été portés, qui sont portés par le programme Entre les images, entrent réellement en résonance avec votre parcours et vos expériences. On a même l'impression, si je pousse le bouchon un peu loin, que ce programme a été imaginé pour vous.
Oui, presque. Effectivement, j'ai une formation de photographe. J'ai pendant une dizaine d'années conçu et mené des ateliers du type de ceux d'entre les images. Et je suis enseignante à Tours dans une formation de carrière sociale où j'enseigne la manière dont la photographie et les œuvres photographiques et les pratiques artistiques plus en général peuvent être des outils du travail social et des vecteurs puissants du travail avec les populations, avec les gens, avec les habitants, avec les personnes âgées, pas âgées, handicapées, pas handicapées.
Fred Boucher, s'il y avait peut-être, alors question au photographe et aussi au directeur du Centre Diaphane dans les Hauts-de-France, et aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, co-président, je l'ai dit, du réseau Diagonale, un petit exercice que j'avais envie de vous faire faire, c'est de vous auto-portraiter là, à ce micro. Bon, bah, en fait, il y en a tellement à dire que c'est peut-être pas mal de vous le laisser résumer.
Raphaël parlait de photographie et de où on vient. Moi, je viens effectivement, je suis photographe et je continue d'être photographe dans l'âme, pas dans les faits.
Pourquoi ?
Parce que...
Trop de fonctions au côté.
Parce que, oui, je crois que... On peut s'accomplir dans la photographie en travaillant avec des artistes et qui vous apportent énormément de choses aussi. Entre les images ou la manière de faire passer l'amour de la photographie, ça passe par toutes ces rencontres. Et aujourd'hui encore, je me nourris de ces rencontres.
Raphaël Berthaud, ce programme Entre les images, pour vous, c'est quelque chose d'inédit, quelque chose, on l'a dit, qui était peut-être fait pour justement... tout ce qui vous intéresse.
Je pense que ce programme, il a la beauté de mettre en valeur la manière dont la photographie, qui est un mot en fait paravent, c'est-à-dire que quand on dit ce mot-là, on ne sait pas de quoi on parle. Au final, est-ce qu'on parle d'une technique, d'un procédé, d'un appareil, d'une démarche, d'une image? Et justement, souvent, il est ramené dans la transmission, soit d'un savoir technique, d'un savoir-faire, d'une forme de pensée critique. Et là, finalement, la beauté d'entre les images comme... d'autres projets qui coexistent. C'est vrai que l'amplitude, l'ampleur de ce programme lui donne une puissance manifeste. C'est de replacer la photographie aussi dans ce qu'elle a, d'être un instrument relationnel, d'être un outil de partage, un outil de dialogue, de rencontre. Et puis, effectivement, cette idée de passer par les marges, de faire un pas de côté pour mieux revenir à l'essentiel, le faire semblant de faire quelque chose qui n'a pas tant d'importance pour finalement aller toucher le cœur de ce qui va se passer dans l'expérience de ces personnes, que ce soit les photographes, les participants, les accompagnants, les médiateurs. C'est toujours des expériences très intenses du point de vue de la rencontre, du point de vue de l'intensité des relations qui vont être créées. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend très difficile le fait de sortir de l'observation de chaque projet dans sa singularité absolue, ces personnes-là, à ce moment-là, à cet endroit-là, et d'arriver à essayer de porter un regard transversal qui ne dénie absolument pas la puissance de chaque projet, mais qui essaye aussi de regarder à travers tous ces projets la manière dont ils créent un chemin commun aussi dans des façons de faire, des façons de se rencontrer. Peut-être le mot commun, ce serait le mot que je vous retiendrai.
Exactement. On a essayé avec cette collection de podcasts, et c'est une manière aussi d'archiver les projets que l'on va avoir la chance d'appréhender. On a essayé évidemment de rencontrer tous les intervenants, que ce soit les participants, les photographes, évidemment les structures accueillantes. Et finalement, ce qui a été aussi réalisé, c'est un mariage un peu sacré entre le son et l'image. On va, pendant toute notre rencontre, essayer de faire éclater quelques extraits sonores, quelques pastilles. On part dans cette cité de Carcassonne avec ce projet Mariage d'images. C'était Famille Croisée, un projet qui était développé par le Graf CMI et le Centre d'art de photographie de Lectour. C'était un projet porté par Arnaud Brignon.
Si je dois parler du projet que l'on a fait avec Arnaud, ce qui m'a plu, ça a été de reprendre les anciens appareils photo. Donc, on repartait dans le temps, et c'est ce qui m'a plu, Il nous a fait connaître tous ces anciens appareils, puis les appareils qu'on a connus, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, avec les jetables, les, comment ça s'appelle, le Polaroid et tout ça. Et en même temps, ça a permis de faire l'analyse de ces photos de famille, justement. Moi, j'ai mon père qui nous prenait souvent en photo. Et donc, on a pu faire cette analyse des photos. Pourquoi notre père, pourquoi dans les familles, on prenait telle photo. Et c'est à partir de là, justement, qu'avec l'atelier des femmes gitanes, quand on est allé à Lectures, on a fait des photos avec des polaroïdes, etc. On s'est mis en situation, on a mis en scène ces photos. Et ça, c'est, pour moi, ça a été extraordinaire. Parce qu'on partait dans le passé, mais en restant dans le présent. Et pourquoi pas pour aller vers le futur. Et c'est bien de le faire ensemble.
La photographie, imaginée comme un trait d'union, c'est peut-être ce qu'il y a de plus commun entre ces 126 projets qui ont été portés par le réseau Diagonale aujourd'hui dans le programme Entre les images. Un dénominateur commun, non, Fred Boucher ? Ce trait d'union ?
Entre les structures.
Alors, ça, j'y avais pas pensé. Mais c'est le coprésident du réseau qui parle. Effectivement, entre les structures d'abord, mais entre les gens, certainement. Mais oui, le côté entre les structures est intéressant.
Oui, parce que c'est... Initialement, il a été aussi imaginé dans ce sens-là, de rencontrer, d'échanger entre différentes structures, différentes approches. Donc il y a dans ce projet entre le graphe et Lectures cette relation. Entre les gens, entre les participants, bien évidemment. Lorsqu'on constitue des groupes où on identifie des publics qui ne sont pas forcément voués à se rencontrer, c'est entre ces images que va se créer la rencontre.
On décloisonne.
On décloisonne et justement, on est sur cette frontière entre deux types d'images. Les gens vont se rencontrer, vont parler. Là, dans cet extrait, quelque chose qui me touche beaucoup, c'est la relation à la mémoire, la relation à la photographie de famille, à notre propre histoire. Je pense que cette question de la photographie de famille, elle est essentielle dans nos propres relations à la photographie. Moi, je constate aujourd'hui beaucoup d'étudiants qui, quand on parle d'albums de famille, ils me disent « Mais où sont les albums de famille ?» Alors, je leur dis « Allez les chercher, peut-être allez voir des photos des années 80, des années 70, allez chez vos grands-parents, regardez les albums. » Et ça dit beaucoup de notre relation au temps, qui est aujourd'hui dans cette entre les images, entre Lectures et le graphe, est essentiel. Cette dame parle des photographies de son père, de la représentation et donc de la filiation. Tout ça, c'est de où on vient, où on va. Cette relation aux images, on l'a par le biais aussi affectif de cette photographie de famille.
Cette dame qui témoignait là était malvoyante, elle rencontrait, elle travaillait, elle développait ce projet d'Arnaud Grignon avec des femmes gitanes, qui est un autre public spécifique. Vous avez remarqué que ces traits d'union pouvaient effectivement, Raphaël Berthaud, irriguer beaucoup des champs justement de ces programmes.
Oui, j'avais deux réactions par rapport à l'extrait qui a été proposé. Le terme de trait d'union, je ne suis pas sûre qu'il me satisfasse personnellement. Alors, parce qu'il est pour moi peut-être trop calme. C'est comme si on invoquait cette pratique participative, artistique, collégiale pour réparer ou pour rafistoler.
Alors qu'il y a des chocs, il y a des...
Alors que je pense que la beauté de ces engagements des photographes, des engagements des participants qui livrent beaucoup, l'engagement de l'ensemble des partenaires qui accompagnent ces projets, les montent, les pensent, les rêvent, les réalisent, les portent, c'est politique, c'est-à-dire que c'est pas simplement renégocier notre rapport au monde, c'est essayer de réinventer un monde ensemble. Il me semble qu'il y a quelque chose qui est un peu plus que du trait d'union. C'est un peu excédentaire, voilà. Après, j'avais aussi une autre réflexion sur la photographie de famille, mais je ne voudrais pas m'étendre.
Non, mais moi, je veux bien l'entendre.
Ce qui est intéressant dans la photographie, c'est quand elle apparaît au 19e, elle se pense et elle se rêve immédiatement comme populaire et démocratique. Et qu'en fait, cette mythologie d'un art populaire et démocratique, il ne se réalise qu'à la deuxième moitié du XXe siècle, et il se réalise totalement aujourd'hui. Voilà, donc je trouvais ça assez beau de voir que cette destinée manifeste de la technique photographique s'était réalisée un siècle et demi après sa naissance.
On reste sur cette notion, même si vous ne l'aimez pas tant que ça, de trait d'union, en tout cas de rencontre. Et ça se passe chez vous, Fred Boucher, là-bas, dans les Hauts-de-France, à Clermont-de-Loise, à Diaphane, avec ce projet de photographie qui se déroule dans les MEX, les maisons d'enfants qui sont en difficulté. Et on écoute Aline qui nous parle de sa rencontre avec cette vieille dame qu'elle a tant aimée, Léone.
Et tu me disais, tu fais de la pâtisserie, tu fais à manger depuis que tu as 16 ans, c'est ça?
Oui. Les gâteaux, c'est une passion qui... Je trouve qu'elle est rentrée dans notre famille. Ma grand-mère, mon oncle, il a fait la boulangerie, ma grand-mère a fait des gâteaux. Et puis, ben, moi, j'ai pris un peu des deux, quoi. Comme la cuisine.
Et là, tu as quel âge?
Là, j'ai 17 ans, bientôt 18 ans dans 3 mois. Avec impatience.
Et du coup, si la cuisine, ça vient en partie de ta grand-mère, ça fait quoi d'être avec... c'est Léone, c'est ça?
Oui.
Avec qui tu as fait le projet de faire à manger?
Léone, elle me rappelle beaucoup ma grand-mère. Elle est douce, elle est calme. Et puis, j'aime passer mon temps avec elle et on se comprend. On a des petites choses qui font qu'on est... On est liés. Elle... Moi, personnellement, c'est ma grand-mère qui m'a appris tout ce que je sais. Et puis, tout ce que Léone a sait, bah, c'est un peu comme ma grand-mère. Du coup, je la considère un peu comme ma grand-mère. Du coup, bah, quand on va partir, je pense que tout le monde va se manquer un peu, quoi. Voilà.
Mais du coup, il y aura les photos qui ont été faites.
Oui, oui, il y aura des photos. Et puis, bah, moi, je passerai voir Léone dans sa résidence. Quand je pourrai. Pour lui faire de la compagnie, et ça lui fera plaisir, je pense.
Alors, quand on va partir, tout le monde va se manquer un peu. Fred Boucher nous dit, Aline, voici en fait l'illustration parfaite de ce décloisonnement, et qui plus est, là, dans ce projet que vous avez porté, on est dans l'intergénérationnel.
On est dans l'intergénérationnel, même plus que ça, c'est-à-dire qu'on est dans la découverte de cultures différentes. Ce sont des choses improbables. Cuisiner ensemble, utiliser la photographie pour photographier simplement des plats avec un téléphone portable ou d'autres outils. Et là, on s'aperçoit que le prétexte, c'est la photographie. La réalité, c'est une vraie rencontre, une envie de cuisiner ensemble et de découvrir... chacun sa culture par la cuisine. Ces jeunes de la MEX ne seraient jamais venus dans une maison de retraite et les retraités ne connaissent pas les jeunes de la MEX.
Raphaël Berthaud, la photographie, souvent, un simple prétexte?
La photographie comme prétexte, c'est une expression que j'ai entendue la bouche de très nombreux photographes, responsables de structures, responsables de projets, au cours de mon enquête, qui a été émaillée de beaucoup d'entretiens et de dialogues. Et évidemment, au début, je ne savais pas quoi faire de ça. Comment ces gens qui dirigent des centres d'art, de photographie, qui sont photographes de profession, arrivent à mettre la photographie en prétexte. Et je me suis beaucoup interrogée sur cette formule. Et en fait, j'ai essayé de la comprendre. Et vraiment, elle n'est pas... La traduction, une mauvaise traduction de cette formule serait de dire qu'elle est ramenée à un simple moyen pour aller vers un dessin qui serait différent. Je pense qu'elle est plutôt l'expression d'une attention qui est portée tout autant à la finalité d'image qu'aux moyens de l'atteindre et à la façon dont on agrège autour de cette finalité d'image. Dans ce que disait Fred, le terme que moi je retiens très fort, c'est celui de la rencontre. La rencontre, pour ma part, elle est plus forte que la question de l'expression. L'expression, on peut ouvrir grand la fenêtre et se mettre à hurler, on s'est exprimé, mais personne n'a véritablement écouté ou entendu. Il n'y a pas eu de retour. Il y a quelque chose qui peut être vain dans l'expression. Et je suis toujours un petit peu prudente quand on parle de favoriser l'expression, parce que c'est comme si on s'engageait à ne pas écouter. Alors que quand on parle de rencontre, ça veut dire qu'il y a vraiment eu un échange, un dialogue, quelque chose qui s'est créé, des racines qui ont commencé à se faire, et on le voit bien, après on se manque.
Il n'y aura qu'un chemin à faire ensemble, celui de l'image. Évidemment, on continue notre plongée avec ces oscillations sonores dans ces projets d'entre les images. On part parler du corps cette fois-ci et on écoute Aline Holuckmann avec un projet qu'elle porte sur six jeunes filles qui habitaient en foyer et qui vont à la rencontre du monde et de leur propre image.
Je m'appelle Aileen Holuckmann, je suis artiste plasticienne, j'ai 40 ans et je suis ravie de porter ce projet Oscillation. En fait, l'idée m'est venue de vouloir travailler avec un public féminin. On s'est posé sur le public adolescent et tout de suite est venue l'idée du rapport au corps, parce que c'est un âge où les filles sont extrêmement envahies et influencées par des images liées aux réseaux sociaux, de corps parfaits, de beauté aseptisée et très contrôlée. Et c'est un sujet qui m'intéressait particulièrement. Et l'idée, donc le terme oscillation est venu de ça, c'est-à-dire comment poser un pas à côté sans renier cette culture, parce qu'elle est là et on ne va pas la transformer en quelques ateliers, mais de prendre conscience que un corps, ce n'est pas qu'une image, mais aussi un véhicule de sensations et de ressentis. Donc au fait, tout l'atelier a été organisé entre des prises de photos et des moments où on était dans des activités où le corps était amené à sentir les choses différemment. Le premier point très important pour moi, c'était que ce soit vraiment une classe de filles. Je voulais pas qu'il y ait le rapport du regard de l'homme, que je trouve déjà compliqué. Donc pour moi, l'atelier se basait sur déjà quel regard on porte sur soi en tant que femme qui grandit d'une manière assez dure, mais réelle. C'est j'ai 13 ans, je suis dans un foyer, je suis soit orpheline, ou soit je suis placée parce que mes parents n'ont pas pu s'occuper de moi. C'est déjà un début de vie qui est assez coriace Et moi, dans un premier temps, ce qui était très important, c'était de capter leur confiance et de leur montrer. Et notamment, donc c'est pour ça qu'on a commencé avec cet atelier trampoline. Et le fait d'être en mouvement, le fait d'être un petit groupe de filles et le fait de tout de suite me mettre à leur niveau en étant, moi aussi, c'est pas parce que je suis adulte que c'est des choses évidentes pour moi. Ça a créé comme ça déjà un rapport de confiance qui s'est agrandi au fur et à mesure des activités. Et j'ai eu cette chance-là qu'elle me fasse confiance et qu'elle se laisse prendre en photo. Même si au départ, encore une fois, elle disait « Ah non !» Elle se jugeait beaucoup par rapport à leur image finale, alors que finalement, au fur et à mesure des activités, l'image n'était que le résultat d'une expérience, mais c'était l'expérience qui comptait, au fait. Et ça, c'était pour moi le pivot que je voulais mettre en avant.
Aline Holuckmann, qui nous parle là de son travail avec ces jeunes filles et ce rapport à leur corps, à leur enveloppe. Finalement, Raphaël Berthaud, il y a eu, jusqu'à à partir du début du projet jusqu'à aujourd'hui, donc presque 4 années qu'on célèbre aujourd'hui de projets, presque 110 photographes qui ont tous eu ce que vous appelez une forme d'intelligence relationnelle. Un mot là-dessus.
La photographie est un prétexte, on en a parlé, elle est un prétexte à quoi ? Elle est un prétexte à la rencontre, elle est un prétexte au déplacement des représentations, à l'émergence d'une forme d'émancipation, de dignité. Mais tout ça, ça peut se faire qu'en fait, que si on arrive à créer une rencontre, une relation. Et c'est là où la photographie, elle est potentiellement un instrument relationnel, parce qu'on en parle, on la prend ensemble, on partage l'appareil, on part faire des photos, on crée un espace tiers. Parce qu'on va faire des photos, on va porter d'autres vêtements que ses vêtements habituels, on va aller dans un lieu où on n'a pas l'habitude d'aller, on va se mettre à se déplacer, aller expérimenter le monde, les autres et soi-même. Mais tout ça, ça n'advient pas le photographe, la photographe, les acteurs des structures, du projet, des associations, n'accompagnent pas cette mise en commun, cette dynamique-là. Elle est magique et en même temps, elle est issue d'un savoir-faire. D'un savoir-faire de créer un groupe, de créer du commun. J'étais frappée en écoutant l'extrait par la manière dont cette description que fait la photographe de l'ensemble de sa démarche, de la manière dont elle va penser, projeter, puis choisir, affiner. En fait, ça tient de la tradition et d'une tradition ancienne, hein, qui est celle de l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on fait des projets, non pas pour, mais avec les gens. Et c'est une tradition de créer du commun, de la parole, des rencontres et de l'émancipation. Donc je pense qu'il y a ça qui sous-tend aussi ce programme Entre les images, c'est-à-dire cette réémergence d'une tradition qui avait peut-être été un peu oubliée ces dernières années et qui, grâce à ces 126 projets, reprend lieu et place au cœur de la création.
Fred Boucher, juste une question au photographe et vieux briscard que vous êtes, qui dit qu'il est capable de tout faire, sauf peut-être les natures mortes et la mode. Est-ce que tous les photographes sont capables de pouvoir s'effacer en tant que professionnel de l'image afin de justement privilégier dans cette intelligence relationnelle le lien avec les participants?
Ça dépend vraiment des photographes.
Ah oui, c'est ça. Oui, non, mais tous ne peuvent pas.
Non, tous ne peuvent pas.
Ne savent pas.
Mais ce qui est intéressant dans ce que l'on vient d'écouter, c'est encore une fois comment il y a un vrai projet de l'artiste sur comment il y a une progression dans la relation avec les personnes, comment il y a une libération lorsqu'elle parle de l'utilisation du trampoline pour libérer les corps. Il y a une vraie intelligence psychologique dans la relation des photographes. Et puis, moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans cet atelier mené à Strasbourg, c'est la libération, encore une fois, de la représentation, de jouer avec sa représentation. On est dans un monde où, justement, ces questions de représentation modélisent nos rapports humains. Et l'âge de l'adolescence qui va recréer et modéliser des images que l'on veut développer, que l'on veut proposer, la photographie devient un outil de falsification. Lorsqu'elles vont sauter sur le trampoline pour que les corps ne soient plus en contraction et soient libérés, c'est comment cet outil de la photographie peut amener à tricher, à transformer aussi les choses. Donc on est dans cette notion de pratique, dans cette notion de jeu avec les images, dans une manipulation qu'on maîtrise. On va la maîtriser, cette manipulation, on va jouer avec. On joue avec les images. Et quelque part, on revient à cette discussion sur le point de vue qu'on peut avoir sur le monde. C'est-à-dire qu'on peut, aujourd'hui, quand on a manipulé, quand on a triché avec notre propre image, avoir un positionnement et un regard critique aussi face aux autres images. Ça fait partie des cheminements qui sont vraiment dans ce dispositif d'entre les images. C'est-à-dire que la pratique, le fait de faire... Je reviens sur la question d'exposer ou de présenter son travail. Présenter son travail, c'est exposer, c'est s'exposer. Comme disait un photographe, on s'expose, quoi. À partir du moment où on donne à voir une image qui n'est pas scrollée sur son téléphone, mais qui est là, dans l'espace, et que l'on propose aux autres, à sa famille, à ses amis, c'est vraiment très important, cette question de on se positionne dans le monde, face au monde, et on donne aussi des réponses. La pratique, c'est vraiment un élément de réponse, c'est-à-dire que on ne peut pas être submergé par les images sans qu'à un moment donné, on puisse avoir la parole avec des images. Donc sur cette question de où on se situe, comment on se situe, on peut jamais ne jamais répondre et continuer d'être alimenté par les images.
Pour rester justement sur cette thématique-là de la transformation et de la façon dont le photographe va devoir communiquer, communier avec le public auquel il s'adresse, et tous les publics sont concernés, c'est ce qui est fabuleux avec ces projets d'entre les images. On va écouter Candice qui parle avec Boris, le photographe, qui a mené ce projet pour Destin Sensible. On est là-haut, à Villeneuve-d'Ascq, dans cette expérience qui a été baptisée paranormale, où la photographie devient un moyen de réparer et d'interroger la normalité et ses codes de représentation. On part et on écoute cette bribe assez touchante de reportage.
Comme celle-là, j'ai pris Marine et Tiffany. Elles battent avec des épées.
Et c'est impressionnant parce qu'elles se battent avec des épées alors qu'elles sont assises dans leur chaise roulante et on a l'impression que c'est des chevaliers.
Oui. Ils font comme un combat.
C'est toi qui as eu l'idée de te mettre un carton de vide, de ouais. Feuilles sur la tête.
Ouais. Comme un chapeau, comme une magicienne. Qu'on claque des mains pour dire je suis là. Parce que sur les photos, on se trouve belle quand les francs.
Boris, on se trouve beau, belle.
Ils le sont, mais je pense peut-être qu'on leur dit pas assez souvent, et que là, à l'occasion d'une expo photo où ils se voient déjà, et ils se sont choisis, ils se sont montrés de cette manière-là. Je pense qu'ils se sont montrés comme ils avaient envie de se montrer dans ce projet, et pas comme on les attendait. Et peut-être qu'elle est là la beauté aussi, de se dire qu'on a surpris. On a cherché à paraître, non pas comme on nous considère, mais peut-être comme on a envie de s'imaginer. Et du coup, cette question de la normalité, c'est aussi comment exister, simplement comment faire rentrer une part d'imaginaire dans le réel, comment apporter quelque chose de magique, comment vivre notre quotidien de la meilleure des manières et de se laisser embarquer dans une aventure un petit peu poétique, parce qu'il y a un petit peu de ça aussi derrière cette idée-là. Et surtout de surgir. Il y avait cette question du surgissement, d'être là où on ne nous attend pas. Et aussi bien Candice que le reste du groupe, que moi-même, on s'est laissé surprendre. Moi, je me suis laissé surprendre parce que j'ai quand même l'habitude de faire des ateliers avec des jeunes. Mais c'était la première fois que je faisais un atelier dans un IEM avec des jeunes en situation de handicap. Et ça m'a bousculé, ça m'a bouleversé aussi. Et je n'ai pas forcément pu... être sur mes acquis, comme d'habitude. Et je pense que je vous ai autant apporté que vous m'avez apporté, et ça, j'ai pas défini quelque chose en amont, je pense que ça s'est défini au fur et à mesure avec vous.
Être là où on ne nous attend pas, et se laisser surprendre. Voilà, on rentre dans l'anagramme du mot image qu'on énonçait en début d'émission, qui est celui-là, magie. Raphaël Berthaud, c'est un peu ça. Il y a des moments magiques qui se passent dans ces projets.
Il y a des moments magiques. Et en même temps, la magie, c'est un savoir-faire. C'est-à-dire que là où nous, public, on voit quelque chose d'absolument évanescent et non maîtrisable et qui nous échappe, le magicien, il sait ce qu'il fait. Et c'est là où, pour moi, c'était important de faire tout ce travail à travers les projets, c'est-à-dire pour traverser ce paravent de la magie et aller aussi valoriser les savoir-faire. Le savoir-faire de l'intelligence relationnelle dont on parlait, le savoir-faire en commun, et aussi ce qu'on entendait là, c'est-à-dire la capacité à... Alors l'expression, et je vais reprendre l'expression qui est le plus souvent utilisée, celle de poser un cadre, mais aussi de savoir l'adapter. C'est-à-dire être à la fois dans une proposition qui va être faite, et en même temps savoir accueillir la manière dont les participants et participantes vont l'investir. L'autre terme qu'on peut entendre, c'est celui de se l'approprier. C'est-à-dire savoir se... déplacer sans perdre le cap, arriver à déterminer un point d'arrivée, mais accepter qu'on va faire des détours inattendus et que ces détours vont enrichir et peut-être vont même déplacer le point d'arrivée, qui sait. En tout cas, tout ça, c'est pas par hasard, c'est pas c'est quelque chose qui est une expertise, un savoir-faire. Et c'est là aussi c'était important pour moi de le valoriser, c'est-à-dire que c'est une expertise, un savoir-faire des photographes, des personnes qui travaillent dans ces structures, qui accompagnent ces projets. Et si on ne les nomme pas, si on reste de l'autre côté de ce paravent de la magie, eh bien, on dénie des expertises et on empêche la valorisation de leur légitimité. C'est à un moment donné, on se disait, les photographes, ils le font, puis ils n'en parlent pas tous, pas forcément, pas beaucoup, ils ne le valorisent pas.
Même s'ils en vivent, parfois.
Même si parfois, c'est vraiment un pan de leur revenu qui
de plus
peut
en plus,
être voilà, important, et de plus en plus important aussi, parce que les politiques publiques investissent de plus en plus sur ces dynamiques-là. Mais et donc, en fait, il faut aussi valoriser leur expertise et savoir-faire pour qu'ils se sentent dans une capacité de dire je sais faire des images, je suis donc photographe, je sais faire des images et les faire en commun et co-construire des œuvres. Ah, ben c'est encore une autre qualité.
Il y a un risque quand même, Fred Boucher, de voir des projets dénaturés, de plus ressembler à ce qu'ils ont été, justement ce qui fait l'essence d'entre les images.
Mais c'est le risque de la création.
Mais oui.
C'est le risque premier de l'art.
C'est même ça qui est drôle. Je veux dire que si on a la question aujourd'hui, c'est les projets clés en main, on sait où on va.
Les pitchs.
Voilà, c'est bon. Mais le grain de sable dans l'engrenage, c'est là où ça devient formidable. La magie, je reprends cette idée de la magie, on va au spectacle, on est dans le spectacle. On va pas chercher à savoir comment ça marche. La force du réseau diagonal et la force des structures, c'est cette expertise, tu parles d'expertise, et c'est 40 ans d'expérience. Tous ces projets, ils fonctionnent parce qu'il y a effectivement de la matière grise qui fait fonctionner et de la logistique. Parce que ces projets, c'est de la vraie logistique. Si le projet va ailleurs, c'est intéressant. C'est simplement, il y a un cadre au départ et de toute façon, on retrouvera l'esprit du projet à la fin. Même s'il y a eu des circonvolutions, même si on a fait des détours. Et ce qui est important, c'est comment on vit ce projet. On est obligé de définir des projets parce que ces projets sont choisis.
Oui, il faut les élire. Oui, voilà.
Mais après, la réalité, c'est qu'il y a une grande liberté dans la réalisation des projets.
Il y en a une qui parle très bien parmi ces 110 ou quelques photographes qui ont participé depuis le début, depuis ces 3 ans, à Entre les images, c'est Stéphanie Lacombe, de cette liberté, de ces projets, de ces publics différents. Avec elle, on part à Gentilly, je crois, oui, c'est à l'école maternelle Henri Barbusse, là-bas, avec un autre public, celui-là complètement inattendu. Je me suis régalé, évidemment, à tendre mon micro auprès de ces tout petits. On les écoute.
Quelle photo vous avez fait avec Stéphanie? Est-ce que c'était que des doudous? Des doudous où et comment? Qu'est-ce que vous avez fait avec ces doudous?
D'abord, c'est quoi un doudou?
C'est pour dormir et des fois jouer avec.
C'est un animal, ça peut être un animal et en fait, c'est tout moelleux et ça parle pas. En fait, il sert à dormir et aussi à raconter des histoires.
À cet âge-là, on va plus ensemble tenter de raconter des histoires. Comme il raconte des histoires en faisant un dessin. Ou lorsqu'il joue avec des doudous ou des jouets, ils vont raconter des histoires. Nous, on a cherché à raconter des histoires en images. Et en fait, au fur et à mesure des journées qui passent, et puis de tout ce qu'on a appris aussi en classe, parce qu'il n'y a pas que la mise en scène des doudous et de la prise de vue, il y a aussi tout le travail qu'on fait en amont en regardant des diaporamas qui relatent de photographies faites par des photographes célèbres. Donc on apprend aussi comme ça. Et surtout, le lendemain d'une prise de vue que l'on a faite ensemble dans la cour, on va aussi regarder le travail au tableau, mais tous ensemble. Et donc on va analyser les images qu'ils auront réalisées la veille. Dans une classe avec 20 élèves, eh bien, on a une diversité de profils, d'identités, d'origines, d'envie aussi. Et ouais, la diversité, c'est-à-dire que c'est infini en fait. On peut faire plein d'ateliers et ce sera jamais le même.
Ce projet, porté par la maison Robert Doisneau, dirigé par Michaël Houlette, dont nous parle là Stéphanie Lacombe, avec les jeunes enfants, c'est un petit clin d'œil pour terminer cette émission. Finalement, la photo, un peu comme la philosophie aujourd'hui, ça peut aussi s'apprendre dès la maternelle, Raphaël Berthaud. On est sur la racine d'une éducation à l'image.
La photographie, la parole, c'est deux façons d'exprimer... de s'exprimer, d'être dans le monde, d'être avec le monde, d'être soi, de se découvrir, de s'affirmer, de se regarder. Donc absolument, les enfants aujourd'hui, de toute façon, ont des appareils dans la main à un an.
Une des finalités aussi de ce projet pour vous, Fred Boucher, mettre l'objet, le fameux objet photographique, l'appareil, dans les mains des tout jeunes, peut-être même dans l'espoir que ceux-ci vont être sensibilisés à savoir ce qu'est une bonne ou une mauvaise photo. Aujourd'hui qu'on est dans cette obésité de l'information et donc de la photographie.
Il y a quelque temps, il y avait Fisher-Price qui avait sorti les appareils photo à deux mains. Pas à deux mains, enfin aujourd'hui, enfin hier. À deux mains, bleu et jaune. Qui permettait de vraiment regarder à travers ces petits appareils. La question des maternelles, elle est extrêmement compliquée parce qu'elle est essentielle. Dans l'intervention de Stéphanie, on voit qu'elle a mis en place un protocole très construit. Progression dans la question du point de vue, la plongée, l'autoportrait. Donc il y a vraiment une construction d'atelier. Tout à l'heure, on parlait de comment un atelier pouvait dériver. On voit dans cet exemple que c'est un atelier qui est construit avec des fondamentaux qui sont la spatialisation des petits, des éléments de parole, comment on peut parler avec des mots sur des images, faire parler le doudou. En faisant parler le doudou, on parle soi-même.
Oui.
Donc, ça fait aussi partie d'une vraie intelligence dans la construction des projets qui sont tous différents et qui s'adaptent aussi à la diversité des publics.
J'avais envie d'essayer de trouver une conclusion, Raphaël Berthaud, Fred Boucher, qui est assez impossible. Peut-être qu'il faut que, dans ces cas-là, je me réfère à votre travail d'enquête que vous avez fourni et qui se terminait sur cette idée-là, finalement, de la conservation. Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces œuvres? Alors, on peut interroger la notion d'œuvre, évidemment, mais en tout cas, dans une logique patrimoniale, il y a quelque chose qui est de l'ordre, pas de l'injonction, mais de la recommandation que vous livrez au réseau.
Absolument. Là, c'est ma nature d'historienne qui va revenir. Celle qui cherche désespérément des archives de tous ces ateliers qui ont été amenés dans les années 70, 80, 90 et qui est parfois extrêmement désarçonnée par l'absence de traces qui a pu être conservée de l'ensemble de ces expériences, de ces rencontres, de ces moments. Aussi parce que c'est la conséquence de l'absence de légitimité ou de lecture légitime de ces activités-là qui sont dans le hors-champ de la création artistique et dans le hors-champ de l'action sociale. C'est-à-dire que vraiment dans une espèce de marge absolue des deux champs sur lesquels elle interagit. Et donc, personne ne pense avoir en charge ou la responsabilité de conserver ces traces. Donc, évidemment, je fais l'historienne en disant, mais comment garder trace et de quoi garde-t-on trace? Il me semble que l'ensemble de nos échanges montre bien que si l'on ne garde que les négatifs, que les fichiers ou que les tirages, il nous manquera une grande partie, voire la majeure partie de ce qui a constitué le sel de ces travaux. Et donc, il faut essayer de garder des brides de ce qu'il y a entre les images. Ce sont vos podcasts, ce sont les enregistrements réalisés par les photographes, les écrits réalisés par les participants et participantes. En tout cas, adjoindre à ces images des paroles et puis des images réalisées au cours de l'atelier, des images de l'atelier en train de se réaliser. En tout cas, essayer de faire en sorte que ce soit l'expérience esthétique, ce camp on a fait une image, quand on a fait de l'art ensemble, qu'il faut essayer de saisir. Rien de plus dur.
Sans vouloir être dans le protocole, parole donc aujourd'hui au co-président du réseau Diagonale que vous êtes, Fred Boucher, avec Eric Sidatora. Un souhait pour cette année à venir, cette quatrième année qu'on va chevaucher ensemble?
Le souhait, c'est que Entre les images devienne une cause nationale. C'est-à-dire que on arrête de parler d'expérimentation, qu'on arrête de dire que tout ce qu'on fait est formidable, puisque tout le monde nous le dit, mais que, et ce n'est pas qu'une question de moyens, qu'on prenne en considération que faire comprendre, regarder les images par la photographie, et encore une fois, la photographie a cette puissance d'arrêt sur image, de simplicité, d'économie de moyens, parce que c'est très simple, on l'a dit tout à l'heure, et de faire que on prenne vraiment conscience que les enjeux aujourd'hui autour de ces images sont fondamentaux, et entre ces images encore plus.
Ce numéro spécial consacré au programme Entre les images à l'aune de sa quatrième saison touche à sa fin. Merci Raphaël Berthaud et vous Fred Boucher de votre participation. Merci aussi à tous les participants et les acteurs des projets soutenus par le réseau qui nous ont accueillis depuis 3 ans au sein de leur structure et nous ont fait confiance. Nous souhaitons bien sûr qu'une seule chose, c'est continuer à prendre la route avec nos micros pour butiner leurs belles énergies et souligner leur implication et leur créativité et à notre manière constituer les archives sonores d'un programme si singulier émanant d'un réseau unique pour une photographie multiple. Précisons qu'Entre les images est un programme soutenu sans faillir par le ministère de la Culture. Remerciements à Jennifer Laborde qui a coordonné et préparé cette émission en plus de toutes ses fonctions au sein du réseau. Merci à Éric Anégrel, secrétaire général du réseau, pour ses intuitions et son acuité. À la réalisation aujourd'hui pour Écran Sonore, c'était Benoît Artaud. Prise de son au studio VOA, Marie Calagabian. Cette série de podcasts originaux, produite par le réseau Diagonale, est écoutable sur toutes les plateformes de diffusion. N'hésitez pas à la partager, bien sûr, et à la liker.